Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
9h40 sur France Inter, l'instant M c'est court, mais ça en dit long.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Quand on vous dit distribution de la presse en France, vous répondez dossier si compliqué qu'il vaut mieux abandonner. En fait, non, c'est assez simple. Quand on se demande pourquoi les marchands de journaux ferment les uns après les autres, pourquoi sont-ils obligés de vendre des titres que vous, clients, ne leur achetez jamais? Pourquoi ne pourrait-on pas acheter la presse, on va dire à la supérette du coin par exemple? Pourquoi continue-t-on de payer très cher des camions qui transportent partout vos journaux alors qu'en réalité vous les y lisez de plus en plus sur un écran? Et comment tous ces nouveaux magazines dont je vous parle chaque semaine dans l'Instant M, qui croient dur comme fer dans l'avenir du papier, peuvent-ils y arriver?
L'Instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Bonjour Louis Dreyfus.
Bonjour.
Vous êtes président du directoire du groupe Le Monde, c'est-à-dire aussi évidemment Le Monde, mais l'Obs, Télérama, Courrier International, La Vie, etc. Le Monde Diplo. Vous êtes président de la coopérative des quotidiens. À ce titre, c'est l'un des deux piliers de Presstalis. Presstalis, c'est le nom de cet organisme qui distribue les journaux. À ce titre, vous avez pris le dossier en main. La crise est extrêmement grave. Elle est historique. Tout se joue dans les jours à venir et ça fait 2 mois que la négociation se déroule. Vous allez nous la raconter. D'ici là, j'ai eu juste une question avant. Je l'ai dit, président du directoire du groupe Le Monde, il y a l'Obs. Il y a l'Obs dans le groupe de Le Monde. L'Obs va-t-il changer de directeur de la rédaction?
Écoutez, moi ce que je vois sur... D'abord, Le Monde n'est actionnaire qu'à 2% de l'Obs. Mm-hmm. Vous savez que l'essentiel du capital est détenu par Xavier Niel et Mathieu Pigas. Mm-hmm. Et donc si jamais il devait avoir un changement, c'est plutôt... ça fait partie de leur prérogative. Mm-hmm. En revanche, puisque vous parlez de l'Obs, moi ce que je vois en actionnaire de l'Obs, c'est que l'Obs, pour la première fois depuis 10 ans, annoncera dans les jours qui viennent avoir atteint un bénéfice d'exploitation, donc l'Obs va mieux. En tout cas, l'Obs qui a été racheté il y a 4 ans par Xavier Niel, Mathieu Pigas et Pierre Berger est en train de retrouver un modèle économique. Après, pour ce qui est de la relance éditoriale, c'est un choix que font les actionnaires quand ils le souhaitent et c'est pas à moi de me prononcer là-dessus.
Alors, des nouvelles de l'audiovisuel public pour commencer, vous allez voir, c'est tout repos comme d'habitude. Marie-Christine Saragosse, fraîchement renommée par le CSA à la tête de France Média Monde, c'est-à-dire France 24 et RFI, découvre avec stupéfaction que son mandat est annulé pour des raisons administratives. Elle n'a pas transmis sa déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Enfin si, elle l'avait déjà fait 2 fois lors de ses mandats, de son mandat précédent, mais les règles ont changé. Ce n'est plus l'instance qui saisit les personnalités en question, mais celles-ci qui doivent la contacter. Marie-Christine Saragosse l'ignorait, le CSA va peut-être devoir recommencer à zéro sa procédure de nomination. C'est abracadabrantesque, comme aurait dit Chirac. Voilà, Louis Dreyfus, hein, si d'aventure un poste vous intéresse dans l'audiovisuel public, vous savez ce qui vous attend. Pendant ce temps ont été entendus tous les candidats à la présidence de la chaîne parlementaire Assemblée Nationale. Tous, ils souhaitent manifestement un rapprochement avec la chaîne de l'autre chambre, c'est-à-dire Public Sénat. Les deux se partagent le canal 13 de la TNT. Louis Dreyfus, on va dire un mot d'histoire. La loi Bichet, adoptée le 2 avril 1947, du nom du ministre de l'Information, ancien résistant, qui dans un contexte de reconstruction nationale, veut assurer l'accès égal à l'information à tous les citoyens. En gros, on trouvera de la presse d'extrême gauche dans les quartiers bourgeois en 47 et la presse de droite dans les quartiers ouvriers. L'État, aujourd'hui, a compris que cette loi provoque désormais des ravages dans le contexte actuel et annonce sa réforme. Je vous propose de commencer par ce qui nous concerne tous, à savoir nos marchands de journaux. On était en 1986, vous allez le reconnaître, rien qu'à voir ce que vend le kiosquier.
C'est un point de rencontre, un peu comme le café. C'est un métier qui demande beaucoup de contact avec les clients, donc aimer le contact avec les gens, aimer parler, aimer rencontrer. L'exemple propre, c'est que beaucoup de mes clients sont devenus des amis.
Aujourd'hui, le marchand de journaux parisien a été obligé de se diversifier en vendant des produits comme les cassettes vidéo, les confiseries ou les pellicules photos. Pour pouvoir fidéliser sa clientèle, la seule courtoisie ne suffit plus.
Et c'était déjà en 86. Les marchands de journaux savent, Louis Dreyfus, que chaque semaine, ils ne vendront pas une très grosse partie de leurs marchandises. L'État annonce qu'on va enfin réformer la loi Bichet. Vous avez envie d'aller vers où? Justement, quand on parle de la loi Bichet, quand on parle de ce qu'on va trouver dans les kiosques à journaux.
On a aujourd'hui une loi, un dispositif réglementaire qui ne sont plus du tout adaptés à la réalité du marché. Et on, avec une difficulté, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution urgemment pour sauver Presstalis. Mmh. Et le gouvernement nous annonce une réforme de sa loi qui va venir probablement dans les 6 prochains mois. Donc il y a une coïncidence qui est désastreuse, puisqu'on va devoir d'abord trouver des solutions, puis imaginer un nouveau cadre réglementaire. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs soucis. La première chose qu'il faut garder en tête, c'est que les marchands de journaux, les maisons de la presse ont tous des difficultés à continuer à exister. Mmh. Je vais vous prendre un exemple qui m'avait frappé, je ne sais pas si c'est encore exact, mais ça avait frappé. Un quart des points de vente parisiens ont un revenu moyen mensuel inférieur à 900 euros.
Ah non, mais c'est une vie d'enfer.
Donc, c'est une vie d'enfer.
C'est une vie d'enfer.
Donc, on a 26 000 points de vente en France. Ça concerne environ 40 000 emplois.
40 000 emplois. Okay. Mais ça veut dire que Avenue Montaigne, on n'achète pratiquement pas Pêche Magazine, alors que pourtant Pêche Magazine est vendu Avenue Montaigne. Et qu'en zone rurale, on achète ou pas Vogue ou L'Officiel, qui sont pourtant vendus dans des points de vente de campagne où ça n'intéresse personne. Le taux d'invendu est de 65%. C'est invivable pour les marchands de journaux.
C'est invivable avec une double contradiction. On a des marchands de journaux qui sont sous-rémunérés.
Oui.
Donc ils ne peuvent pas continuer à exercer leur métier. Or, sans les marchands de journaux, la plupart des éditeurs français disparaîtront. Et on a un coût de distribution pour les éditeurs qui est trop cher en raison de cette distribution qui est trop large et trop coûteuse. Mmh. Donc on a une contradiction avec, aujourd'hui, et c'est ce qu'essaye de faire l'ensemble des éditeurs français, c'est de baisser les coûts de distribution sans pour autant pénaliser les marchands de journaux pour lesquels il faut imaginer une rémunération plus importante.
On va y venir, mais l'idée c'est qu'on arrête d'obliger les marchands de journaux à tout vendre et dans des quantités obligatoires. On est d'accord. L'idée c'est de travailler là-dessus. En même temps, ça garantit le pluralisme. C'est-à-dire l'idée c'est que si vous avez un marchand de journaux qui est d'extrême droite, il est obligé de vendre Politis. Si vous avez un marchand de journaux qui est d'extrême gauche, il est obligé de vous vendre Valeurs Actuelles. Ça c'est important quand même.
Ça c'est important, mais ce que vous dites concerne une catégorie de presse qui est l'information politique général,
oui.
Mais on pourrait considérer que des journaux sûrement essentiels, mais qui concernent la pêche, la chasse
ou les piscines,
sont moins, ne rentrent pas exactement dans la même catégorie.
Donc vous pourriez imaginer
que cette obligation qui a trait au pluralisme, elle est essentielle pour la vie démocratique, mais elle ne concerne qu'une faible partie des titres distribués.
D'accord, donc les titres d'information de presse générale, et pour les autres, ce serait au choix du marchand de journaux. En échange, pourquoi ne pas trouver des journaux à la FNAC, dans les pharmacies, dans les librairies ou dans les supérettes?
On pourrait imaginer effectivement que chez un magasin de grande distribution, vous ayez tous les magazines de bricolage. Pour ce faire, il faut qu'on puisse ouvrir des points de vente de manière beaucoup plus fluide. Et aujourd'hui, on a une réglementation
qui est
aberrante et d'ailleurs dysfonctionnelle. À tel point que quand l'un des organes de régulation dit « vous pouvez ouvrir des points de vente dans les supérettes », l'autre organe de régulation, une semaine après, nous dit « non, je vous l'interdis ». Donc on a quelque chose qui est complètement... On a un système qui est tétanisé et au bord de la faillite.
Donc ça aussi, vous voulez que ça change.
Donc ça
aussi, vous voulez que ça se simplifie. Je pense qu'il y a des marchands de journaux qui nous écoutent et qui doivent hurler en disant « on a déjà survécu à tout, on fait partie des 6000 points de vente qui n'ont pas fermé ces dernières années et en plus, on va avoir des supérettes vendre les journaux ». Mais moi, je leur propose de nous appeler et de venir dans l'instant même parce qu'on les reçoit souvent et on aime beaucoup discuter avec eux. Reste à savoir maintenant comment on achemine les journaux vers les kiosques et les marchands. Alors, la loi Bichet, il y avait aussi donc la création de cette coopérative à l'intérieur de laquelle tous les éditeurs, les riches comme les pauvres, les grands comme les petits, sont solidaires en matière de distribution. Ce qui était aussi un système très vertueux il y a 70 ans, ça voulait dire qu'il n'y avait pas que les grands groupes très riches qui pouvaient acheminer leurs journaux partout en France. Je vous propose une archive d'il y a 35 ans.
Brest, 8h du matin, comme chaque jour, Libération est au rendez-vous de ses lecteurs. Chaque mois, environ 4,5 millions de journaux sont envoyés de Paris à Nantes par fac-similé, puis distribués sur l'Ouest. Ils ont franchi des centaines de kilomètres, sont passés dans des dizaines de mains. Chaque nuit, l'opération se reproduit en quelques heures. Tous les professionnels vous le diront, la presse ne peut pas attendre.
Alors la presse ne peut pas attendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire 25 000 marchands de journaux, vous l'avez dit, Louis Dreyfus, ça veut dire tous les quotidiens nationaux, ça veut dire 300 millions d'exemplaires chaque année et 75% des magazines disponibles tous les matins, partout où vous habitez à 6h du matin. Et ça, c'est ce que réalise Presstalis chaque jour. L'enjeu est énorme, absolument colossal. Alors on le sait, les journaux vendent de moins en moins de papier et en même temps, des camions qui continuent à parcourir la France... bah, quand ils sont à moitié vides, ils coûtent le même prix. On est d'accord ?
Oui.
C'est de là que vient le problème ?
On a une structure de distribution de Prestalis qui est adaptée à des volumes beaucoup plus importants. Mm-hmm. Donc il y a un effort de réduction.
Les volumes des années 60, quoi.
Oui. Donc il y a eu des efforts réguliers de baisse des effectifs mm-hmm. et des coûts de Prestalis, accompagnés par les organisations syndicales. Donc il y a eu des négociations, des mouvements sociaux, mais enfin, cela a été fait. On reste aujourd'hui dans une entreprise qui a encore besoin de s'adapter à des volumes qui sont plus faibles. Mmh. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Le problème de ces restructurations continuelles, c'est qu'elles sont évidemment très coûteuses.
Oui.
Et pour cela, il faut que ce soit les actionnaires de ces coopératives, donc l'ensemble des éditeurs français, mmh. qui payent pour financer cette restructuration.
Et donc, c'est pas aux contribuables de payer.
C'est pas aux contribuables de payer.
Non, on est d'accord.
Donc, on a aujourd'hui l'ensemble des éditeurs mm-hmm. qui s'organisent pour payer cette restructuration. C'est une restructuration qui est très onéreuse. Et la question est, comment on arrive à ce que chacun paye et sans pour autant que les éditeurs, les plus petits éditeurs, se retrouvent en état de cessation de paiement parce que les coûts de distribution sont montés d'un coup de manière trop importante.
Alors, au mois de, ça a été tellement la panique au mois de décembre. Le trou dans la caisse était tellement énorme que Prestalis a décidé, sans crier gare, de retenir 25% du prix des journaux supplémentaires. Hein. Prestalis prend déjà une com qui va de 30 à 50% du prix des journaux. Déjà, les petits éditeurs se sont sentis mais totalement pris en otage. Et maintenant, Prestalis propose, vous proposez tous ensemble, parce que vous êtes tous mis autour d'une table, vous proposez deux moyens de renflouer les caisses. Soit pendant 4 ans et demi, on va prélever 2,25% du prix des journaux, soit les journaux qui ont les moyens mettent sur la table l'argent et avancent l'argent à Prestalis. En gros, c'est ça, si on simplifie. Voilà. Les petits éditeurs, on va parler des petits éditeurs, ensuite on va parler des gros comme vous. Mais les petits éditeurs disent 2,25%, vous vous rendez pas compte, on n'y arrivera jamais, on est mort.
On a une difficulté. C'est-à-dire que les coopératives prévoient que chaque éditeur doit, les conditions de distribution et de rémunération de distribution doivent être les mêmes pour tout le monde. Donc on ne peut pas augmenter les coûts de distribution des gros et pas des petits.
C'est le principe de la coopérative.
C'est le principe de la coopérative. Et c'est ce qui permet aux petits éditeurs d'être distribués. Mm-hmm. Donc l'intérêt, c'est de rester quand même aujourd'hui. En tout cas, le système est un système coopératif. On a besoin, les coûts de restructuration de Prestalis sont très importants et arrivent tout de suite. Puisque des
140
coûts de
millions d'euros, voilà, il va
c'est
falloir.
C'est des coûts de restructuration, et puis il faut éponger les pertes. Mm-hmm. Donc on a demandé aux grands éditeurs français s'ils pouvaient, eux, avancer une partie de ces coûts.
Ce sera le cas du Monde ?
Ce sera le cas des deux coopératives. On a décidé de demander aux grands éditeurs, pour ceux qui pourront le faire, donc c'est des discussions qui remontent à chacun des actionnaires.
Mais ce sera le cas du Monde ? Le Monde va mettre l'argent sur la table ?
Ça remontera à chacun des actionnaires qui regardera ce qu'il peut faire. En tout cas, le Monde...
Donc le Monde n'a pas encore donné sa réponse ?
Le Monde n'a pas donné, mais l'ensemble des coopératives vont donner leur réponse. Et nous, on demande plusieurs choses. Que ceux qui peuvent avancent les fonds, que les grands éditeurs s'engagent, et on l'a déjà dit au titre du Monde, à rester pendant toute la durée du plan à Prestalis, à ne pas partir vers une autre messagerie. Mmh. Et pour les petits, ben donc on lisse la charge, cette augmentation de coûts. Mais pour cela...
C'est-à-dire étaler sur 4 ans et demi, 2025.
Mais d'accord. Pour cela, pour qu'on puisse faire, puisque les coûts apparaissent dès cette année et que les recettes, donc les 2,25, sont lissées dans le temps, on demande à l'État de nous trouver un dispositif de prêt, pas de subvention, ce n'est pas le contribuable. On est tout à fait conscient que c'est aux éditeurs de trouver une solution. En revanche, de nous aider à construire un...
Donc l'État va avancer 90 millions d'euros.
L'État avancerait, qui serait un prêt qui serait rémunéré, et pour lequel les éditeurs s'engageraient à rester à Prestalis le temps que ce prêt soit remboursé.
Voilà. D'accord.
Si on n'arrive pas à un accord là-dessus, alors Prestalis ne pourra pas continuer à fonctionner. Et dans ce cas-là, on aurait quelque chose de catastrophique pour les petits éditeurs et les diffuseurs. Les grands éditeurs, malheureusement, trouveront forcément un moyen d'accélérer.
C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire finalement, vous, si le système s'écroule, et le système peut s'écrouler, rappelons-le, ça se joue vraiment dans les jours qui viennent, le système peut s'écrouler là dans la semaine qui vient. Finalement, vous, le groupe Le Monde, peu vous importe que le système s'écroule. Je le dis parce que vous avez deux pôles de rentabilité. Le premier, c'est par exemple Télérama, qui vous rapporte beaucoup d'argent, ou Le Monde Diplomatique. Télérama, Le Monde Diplomatique, ça se vend sur abonnement, donc peu importe les kiosques. Et sinon, c'est Le Monde.fr. Le Monde.fr, c'est plus du papier, c'est de l'écran. Donc finalement, si Le Monde s'écroule,
Alors, non, je pense qu'on a toute une partie de nos lecteurs qu'on trouve en kiosque et qui n'ont pas basculé sur le numérique, qu'on considère que les kiosques sont un des lieux importants pour construire du lien social, de la vie démocratique de notre pays, et nous au Monde, comme à l'Obs, comme à Télérama, on est particulièrement attachés à ça. Donc pourquoi le Monde, en tout cas moi, en tant que président de coopérative, on est actif pour sauver Presstalis? C'est pas pour que le Monde gagne de l'argent ou se développe, c'est parce qu'on considère que c'est essentiel pour la vie démocratique que les journaux, l'ensemble des journaux puissent continuer à être distribués, et que d'où l'alerte qu'on lance à l'ensemble des pouvoirs publics en disant s'il n'y a pas une réaction ou une aide rapide, on ne pourra pas sauver Presstalis, et c'est l'ensemble des petits éditeurs et diffuseurs. Donc on a besoin, un, de sauver Presstalis, et deux, d'aider les marchands de la presse.
Alors justement, les marchands de la presse, là il y a une grosse, grosse menace qui va leur tomber dessus. Sur les 1200 personnes qui travaillent encore à Presstalis, hein, il y a déjà eu un énorme plan social à Presstalis il y a quelques années, il en reste 1200 personnes. La nouvelle patronne de Presstalis dit qu'il va peut-être falloir proposer un plan de départ à 200 ou 300 d'entre elles. C'est beaucoup. Et on n'a plus les moyens de financer ce plan de départ comme on le faisait avant, dans des conditions très confortables. S'il y a une grève, je vous propose d'écouter une archive 1989. Des grèves, on en a connu des tonnes, et les marchands de journaux n'en peuvent plus.
Des rotatives qui tournent pour rien, c'est tout le cœur du problème. Face à face, les 2500 ouvriers CGT du Livre qui bloquent toute la distribution des journaux, et les patrons de presse qui perdent chaque jour des sommes exorbitantes. Aucun de ces numéros du quotidien Le Monde n'est parvenu cet après-midi dans les kiosques. Des piquets de grève ont en effet empêché la sortie des camions des ateliers d'imprimerie vers les centres de tri et d'expédition.
Louis Dreyfus, vous n'étiez pas le patron du Monde en 89, mais nous, lecteurs, toutes ces grèves qui ont fait qu'on est arrivé devant des marchands de journaux vides et fermés, on s'en souvient, et ça a tué les marchands de journaux. Si là, il y a à nouveau 3 semaines de grève, parce qu'il y a un plan de départ chez Presstalis, ils s'en remettront jamais.
Oui, mais en même temps, je vous fais remarquer que ça fait 2 mois que chacun sait que la situation de Presstalis est très tendue. Ça fait 2 mois que les organisations syndicales comprennent qu'il va devoir avoir une réorganisation et qu'il n'y a pas eu un mouvement de grève. Donc on a aujourd'hui, je pense que ce serait trop facile de faire porter les responsabilités des dysfonctionnements du système et de Presstalis sur les ouvriers qui sont le fruit d'une histoire.
C'est-à-dire les ouvriers du Livre.
Les ouvriers du Livre, c'est une histoire. Ils sont capables aussi d'accompagner une transformation. Et moi, je suis...
C'est une histoire racontée là. C'est l'héritage de l'après-guerre, tout l'héritage du Parti communiste. Ce sont les ouvriers du Livre qui composaient majoritairement les forces de Presstalis, qu'on appelait avant les NMPP.
Et en gros, en 1945, après la libération, plusieurs secteurs ont été, au moment où la France devait se réindustrialiser, plusieurs secteurs ont été remobilisés grâce notamment à l'intervention du Parti communiste et de la CGT. Ce sont les docks, ce sont l'imprimerie et ce sont la distribution.
Voilà.
Et donc ce sont des secteurs où la CGT est ultra-majoritaire, voire le seul syndicat présent. Elle est majoritaire à Presstalis. Les conditions de fonctionnement et de rémunération sont le fruit d'une histoire. Aujourd'hui,
on les a beaucoup dénoncés. On a beaucoup dit que c'était des salaires très confortables, des conventions collectives très confortables.
Pour autant, il y a des accords qui ont été signés. Il y a eu forcément des organisations patronales qui ont signé les conventions collectives. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a une transformation des organisations qui va devoir se mettre en place. Les organisations syndicales me semblent assez conscientes que la presse ne pourra pas se distribuer demain dans les mêmes conditions, et surtout que si Presstalis tombait, c'est l'ensemble des éditeurs français qui seraient pénalisés, et l'ensemble des lecteurs et des diffuseurs qui seraient pénalisés. Et je pense qu'ils sont au moins autant attachés que moi à ce débat démocratique et au fait qu'il faille trouver une solution.
Merci beaucoup Louis Dreyfus, et je rappelle que les diffuseurs, ce sont nos marchands de journaux. Merci beaucoup d'être venu dans l'Instant M et d'avoir fait preuve de pédagogie. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sénat de Ville.
Avoir un enfant, c'est le sujet du jour.
Oui, quand le désir d'enfant est contrarié, quand on est un couple hétérosexuel stérile, un couple gay ou lesbien, ou encore un célibataire, comment vivre ce désir d'enfant quand la biologie ou la société ne le permet pas ou qu'elle y met des obstacles? 01 45 24 7000.